je vais construire mon intervention en deux temps. J'essaie d'aller vite sur le premier temps parce qu'en fait, c'est connu, ça a été déjà travaillé sur finalement ce que signifie fabriquer un décor quand on doit finalement le distribuer entre le moment du tournage, la préparation et du tournage avec des constructions, on va dire, assez traditionnelles et le prolonger lorsqu'on redonne la main aux effets spéciaux numériques. Donc, ça renvoie à quelque chose qui est maintenant assez bien rodé dans le cinéma français, l'usage des fonds verts. Alors là, vous avez une photo que j'ai prise il n'y a pas très longtemps pour montrer que cette technique est très utilisée encore sur le tournage des Trois Mousquetaires. Et donc, on est bien sur un gros chantier et ce que tient le tracteur, là, c'est un fond vert mobile pour prolonger une perspective dans une rue qui a été complètement privatisée derrière le château de Compiègne. Et ce fond vert va permettre de donner l'impression que cette rue est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est. Alors, quand on parle de décor, de quoi parle-t-on ? Enfin, quand on parle d'effets spéciaux numériques, pardon, de quoi parle-t-on ? De correction, de réparation de l'image, mais aussi de reproduction imitative lorsqu'on procède à des extensions de décor ou de construction d'univers imaginaire. Là, c'est pour les films fantastiques, on connaît bien cela. Alors, juste un petit point, on a souvent dit, et peut-être dit, qu'aujourd'hui, il est plus facile d'enlever des fils électriques avec, en phase de post-production ou des panneaux ou divers et variés. En fait, ce n'est pas toujours évident, c'est un arbitrage budgétaire. Là aussi, exemple récent pour vous dire que, les décors matériels ont toujours de l'avenir. Là, c'est un gros tournage il y a quelques mois dans mon quartier à la Butte aux Cailles d'une série américaine et ils ont coupé à la scie circulaire tous les supports pour les vélos qu'ils n'ont toujours pas remis d'ailleurs. Donc, c'est du gros sabotage de la rue de Paris et pendant un mois, ils ont empêché le quartier de vivre. J'étais pas très contente. Voilà. Alors, justement, sur la question de la... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la distribution, finalement, des activités professionnelles et les luttes de légitimité aussi entre ce qui va être pris en charge par l'équipe décoration et puis ce qui va être ensuite pris en charge par l'équipe de VFX numérique qui intervient à la fin. Alors, il s'agit toujours d'arbitrages qui vont être situés au regard de la nature du film, des contraintes du film, des rapports de force entre les chefs de poste, des budgets, évidemment. Donc, des arbitrages qui vont être décidés en préparation, en pré-production, même lors du développement du film. Et puis, on aura toujours une part d'impondérable. Alors ça, c'est une phrase un peu convenue qu'on entend souvent. Nous sommes les éboueurs du cinéma lorsque finalement, dans l'urgence de la production, on va décider qu'on ne va pas reprendre cette scène, on ne va pas ajuster un décor, on le fera en post-production. Alors, j'avais mis cette photo qui était prise lors d'un tournage d'un film, toujours à la Butte aux Cailles, d'une pub Orangina où ils avaient refait ils avaient tourné avec des vieux camions de poubelle. Alors, par rapport à cet enjeu de qui prend en charge quoi sur un plateau de tournage lorsqu'ensuite les effets spéciaux vont reprendre en charge la fabrication des décors, des images, eh bien, cet enjeu se pense dans une sorte d'approche séquentielle de la fabrique des images, le temps du tournage, le temps de la post-production. En réalité, il y a des intrications permanentes puisque pour pouvoir travailler la post-production, les équipes d'effets spéciaux ont besoin ponctuellement, un peu en mercenaire, d'aller sur le plateau pour prendre des mesures des décors, et c'est là qu'on assiste à des cohabitations parfois un petit peu compliquées, des équipes de tournage, et donc des formes de coopération sur un plateau où les VFX apparaissent très souvent comme les étrangers qui risquent de menacer le temps sacré du tournage, et qui arrivent aussi avec un langage particulier qui rend parfois difficile la coordination, en tout cas la prise en compte des contraintes réciproques respectives des différentes attentes et normes professionnelles des équipes. Alors, je vous présente un peu ce panorama qui est maintenant bien documenté, mais qui aussi interroge la manière de faire équipe, de se coordonner dans un processus où la fabrique des images reste quand même à dominante séquentielle, avec des frustrations de la part des superviseurs d'effets spéciaux, qui est de dire, mais finalement, nous, quand on arrive sur un tournage, eh bien, on ne voit pas ce que l'on fait, on n'arrive pas à faire comprendre ce que l'on fait. Sur un tournage, le métier de chacun, il est visible à la caméra ou sur le combo, sauf le nôtre. Alors, si je me permets de mettre cette petite citation, c'est que justement cette configuration de travail va sensiblement évoluer avec les tournages en décor dit de réalité virtuelle. Alors, dans cette organisation du travail, les enjeux sont importants sur la question de la maîtrise des images, la maîtrise artistique de la fabrication des images, que ce soit pour la décoration ou la lumière, avec là aussi des enjeux qui sont bien documentés, puisque ce qui est souvent, ce que regrettent très souvent les chefs d'éco et peut-être dans une moindre mesure les chefs opérateurs, c'est de ne pas toujours avoir le contrôle de ce qui va se passer en post-production et de finalement laisser la finition artistique du film à des équipes qui sont sur un autre espace, l'espace de leur studio, hein, Microcimage, Boeuf et compagnie. Et donc, il y a cet enjeu de comment gérer, contrôler l'image du film. Alors, deuxième temps de mon exposé, je voudrais évoquer, c'est plutôt des pistes de recherche, des interrogations sur les recompositions professionnelles qui vont être introduites justement par l'introduction des dispositifs dits de réalité virtuelle sur le plateau, avec une sorte d'accélérateur. Alors, on ne sait pas si ça va se poursuivre, dans quelle mesure ça va s'étendre, mais en tout cas, il y a eu quand même des moments assez saillants liés notamment à l'arrivée à cette fameuse série Mandalorian, hein, une série Star Wars, qui a impressionné tout le monde et qui a justement assumé le fait de pouvoir faire en studio des décors virtuels extrêmement impressionnants sans avoir à déplacer les équipes en Tunisie, ailleurs, enfin, comme dans les premiers Star Wars de mon enfance où j'en étais restée. Et donc cette série est sortie avant le confinement et en fait elle a suscité alors je vois si ça marche. Elle a suscité beaucoup d'interrogations et pendant le confinement, des spécialistes soit venant des chefs opérateurs, des VFX, des entreprises qui avaient aussi des systèmes d'éclairage de l'événementiel, ont voulu aussi se former, comprendre, essayer de développer, de faire de la recherche-développement sur ces nouveaux dispositifs. Enfin, nouveaux, pas si nouveaux que ça, mais en tout cas, qui étaient en... Là, c'est juste un petit... C'est lors d'une visite que j'ai faite dans un studio où l'idée, en fait, pour comprendre vite, pour ceux qui ne connaissent pas le système, c'est de projeter sur un mur LED, un mur, un décor extrêmement réaliste, où on peut ensuite contrôler, quand on veut, la lumière, les effets de lumière, DAX, et ce qui permet aux comédiens notamment d'être dans leur décor et ne pas travailler sur fond vert. Donc il y a aussi des enjeux d'appropriation du décor. Alors, la période de confinement, ensuite, s'est soldée, on va dire, par la création de petites entreprises qui ont, aujourd'hui, essayent de convaincre les producteurs, les chefs décorateurs, chefs opérateurs, de l'intérêt qu'il y a à utiliser. Alors, c'est souvent dans les pubs ou dans des courts-métrages ou alors sur certains types de scènes particuliers, notamment les rollings de voitures, que l'on va voir un intérêt pour ce type d'outils. Alors, parmi les entreprises qui se sont développées, Tonton Trucker, Neo7, Planète Rouge, Studio Virtuel, TSF a aussi créé un studio il n'y a pas très longtemps, en 2020, avec des murs LED. Donc, il y a une offre qui se constitue avec des trajectoires professionnelles très intéressantes, puisqu'il y a un mix de personnes qui viennent du jeu vidéo, puisque c'est une technique qui est importée du jeu vidéo, ça c'est important, hein. On n'est pas du tout dans les systèmes de calcul que l'on a lorsqu'on fait de la post-production plus traditionnelle. Et donc, des professionnalités qui vont aussi se former, enfin, de nouveaux professionnels qui vont se former à ces technologies venant d'univers très, très différents. Alors, j'ai évoqué le décor réalité virtuelle, mais il y a un autre système qui a été développé un petit peu avant, c'est la prévise. Donc là, c'est sur le site des Tontons Truqueurs. Alors, c'est très intéressant parce que c'est pas aussi complet d'une certaine manière que le bio virtuel, mais on peut voir directement sur le plateau l'effet du décor, même si on tourne sur fond vert. Et donc, ce dispositif a été mis en place sur une série de flux à Six Grands Soleils, à Montpellier. Et dès le début de la série, ils ont beaucoup investi là-dedans. Et maintenant, d'ailleurs, la France Télévisions a pris des participations dans l'entreprise avec cette idée, finalement, de gagner du flux, de gagner l'efficacité productive en évitant d'avoir une phase de post-production trop importante. Alors, la post-production n'a pas été supprimée, mais l'idée, c'est vraiment de la réduire au maximum. Alors, il faudra voir dans le détail s'ils y arrivent vraiment. Mais en tout cas, il y a des lourds investissements pour fluidifier la production, la rationaliser. Il me reste combien de temps ? Ah, moi, ça va, je vais y arriver. Alors, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu les choses, voilà comment c'est présenté sur le site de Planète Rouge, en présentation de communication. Hein. Dans le studio, le sol et les éléments de décor avec lesquels les acteurs interagissent sont réels. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un travail de décoration réelle qui est fait pour les avant-plans, comme lorsqu'on travaille en décor avec des fonds verts. Les décors photoréalistes 3D sont créés en amont et générés en temps réel. Donc ça, c'est important. Créés en amont et générés en temps réel, ça veut dire que là, moi, j'ai une entrée par le plateau, mais en fait, on va dire tout se joue, beaucoup de choses se jouent en phase de pré-production, qui va devenir le temps essentiel, stratégique finalement, de l'économie, de la fabrication de ces images et de la créativité aussi, qui va être possible sur le plateau ensuite. Donc les décors sont créés en amont et générés en temps réel par un moteur de rendu, sont projetés à l'arrière-plan sur des murs LED. La lumière émise est reflétée sur le visage des acteurs, leurs vêtements accessoires facilitant grandement l'intégration visuelle. Lorsque le réalisateur effectue un mouvement de caméra, la perspective des décors évolue comme dans la réalité d'un paysage que l'on regarde. Cet effet de parallaxe, c'est une illusion d'optique bluffant, la prise est captée directement dans la caméra sans besoin de lourds traitements additionnels en post-production. Alors j'ai eu la chance de pouvoir passer une journée dans un de ces studios et puis aussi d'assister à des rencontres professionnelles avec des démonstrations. Effectivement, c'est assez impressionnant de voir finalement cette immersion qui va être rendue possible par ces technologies. Alors en même temps, c'est pas complètement nouveau. Il y a quelques temps, j'ai travaillé sur un film qui a été diffusé en 2011, La Fée, qui utilise une technique finalement qui est la rétroprojection où voilà, on filme des pelures puis on les balance sur l'écran. Alors par contre, il y a moins ce travail d'intégration avec les jeux d'axe, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie d'une continuité finalement du cinéma où on va créer sur le plateau des décors qui vont devoir faire plus ou moins illusion. Alors, pour l'instant, on n'est pas chez Mandalorian, en cinéma français. Et donc effectivement, le fantasme des grands... Des responsables de studios, c'est de pouvoir avoir des projets avec peut-être davantage de scénarios ou d'imaginaires à une place importante. Et pour l'instant, là où il y a eu des interventions un petit peu systématiques, ce sont pour des scènes de rolling. Alors, je ne les ai pas vues. Je voudrais peut-être aller voir Une belle course là, qui est sortie ou qui va sortir dans les prochains jours, ou qui est déjà sortie. Alors, le cas d'Une belle course, pour ce qui m'en a été dit, c'est assez intéressant parce qu'en fait, Lynn Renault, donc c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi donc qui traverse Paris, une vieille dame qui va dans une maison de retraite et puis elle fait une course en taxi très très longue, elle raconte sa vie. Et Lynn Renault, qui est très très âgée, ne pouvait pas tourner plus de 3 heures par jour, enfin un temps très très limité. Donc, d'un point de vue de la gestion du temps de tournage et l'optimisation du temps de tournage, donc là on est bien dans des enjeux de rationalisation de la production. C'était un peu compliqué d'organiser des tournages en plein Paris, uniquement 3 heures, etc. Donc, ils ont utilisé cette technique et en coupant le temps en deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie du plateau où il y avait des scènes qui se passaient dans une maison, etc., avec d'autres acteurs, et puis une autre partie, studio virtuel, où là, elle faisait son rolling avec Danny Boone. Et donc, il y a eu un choix, une prise de risque, parce que c'est une technologie aussi coûteuse, qui était aussi liée à la question de la gestion, à la fois gestion de la disponibilité de la comédienne, de sa disponibilité physique aussi, et puis des contraintes de tourner à Paris, où on sait que Paris est une ville très, très saturée. Donc, on se lance. Alors, je vais passer là-dessus, parce que je voudrais revenir sur les enjeux de coordination et de coopération sur un plateau. Ils ont testé cette technologie sur un court-métrage que vous pouvez voir sur Arte, qui s'appelle Warsha, où justement la réalisatrice voulait tourner sur un vrai chantier dans une grue très très haute au Liban avec des acrobaties sur la grue. Elle avait l'autorisation de tournage sur ce type de chantier, mais c'était quand même trop dangereux et donc elle s'est reportée sur cette technologie qui lui a donné satisfaction. Alors Ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec ce système, on peut jouer sur les reflets des décors sur les comédiens. Donc, ça limite les enjeux de raccord. Alors, par rapport aux quelques questions, moi, qui m'intéresse de travailler, ce sont des questions liées effectivement à la cohabitation de différentes équipes qui ne partagent pas forcément les mêmes conventions professionnelles sur un espace de travail qui est quand même assez limité, le plateau de tournage, qui fait la décoration, qui fait la lumière, parce que d'un côté vous avez des vrais décorateurs entre guillemets, traditionnels ou des chefs-op avec leur lumière, et de l'autre des choses qui vont se faire en appuyant sur des touches, des boutons, des ordinateurs, et tout ça doit faire une image finalement, une image globale qui doit avoir une cohérence propre. Et on a des professionnalités qui sont issues finalement de traditions différentes, hein, pour le faire vite, le cinéma classique et l'univers des jeux vidéo, hein, pour le faire très très vite. Et donc là, ça fait pas forcément accord. Et puis il y a la question, qui est une question qu'on a vue dans la fabrication des effets spéciaux séquentiels, c'est qui prend en charge quoi, comment, avec quel type d'arbitrage. Et donc là, on va finalement, des vieilles questions vont se retrouver reformulées avec d'autres enjeux, d'autres logiques de partition dans ce type d'univers. Alors, donc, qui fait la lumière, qui fait le décor, ce n'est absolument pas tranché, et ça va se faire finalement au cas par cas, aussi en fonction des velléités d'intervention des décorateurs ou des chefs opérateurs sur la prise en main finalement de ces outils qui, pour l'instant, sont gérés par des spécialistes de studios qui ont leur propre studio, donc qui invitent les équipes de tournage. Alors, on a aussi des studios virtuels qui se déplacent sur d'autres plateaux. Donc, là aussi, l'espace de travail va connaître des configurations qui vont être assez hétérogènes. Et des tensions sont déjà palpables, et en tout cas, des interrogations sont déjà palpables. Et là, c'est des choses que je dois documenté, donc j'ai commencé à avoir quelques éléments, mais il faudra que j'aille un petit peu plus loin, je pourrais revenir dans les questions. Alors, donc, parmi les interrogations, qui s'adapte à quoi et à qui, quelles vont être finalement les formes de solidarité technique, pour reprendre cette expression de Nicolas Daudier, qui vont se constituer pour permettre de faire advenir finalement un décor avec sa lumière et ses caractéristiques artistiques. Alors, ce qui va être, à mon avis, un facteur de coordination, et là, je ne fais pas de la projection, ça a commencé à se faire, c'est l'idée quand même que, grâce au retour d'image immédiat, eh bien, on voit directement l'effet des effets spéciaux sur l'écran. C'est-à-dire que tout le monde a accès, finalement, à la fabrication de l'image, et donc, quand les superviseurs VFX disaient « mais les gens ne comprennent pas notre travail parce qu'ils ne voient pas ce qu'on fait », dans ce cas de configuration, là, leur travail, on le voit. On le voit, ce qui permet, alors éventuellement de le discuter, l'interroger, de le remettre en question, mais ce qui permet aussi aux autres corps professionnels de s'adapter à ce qui va être fait, adapter les lumières, adapter les décors, et inversement, faire en sorte que ces spécialistes d'effets spéciaux adaptent aussi leur dispositif aux autres contraintes des autres corps de métier, à condition que cette adaptation puisse se faire, et cette adaptation ne pourra se faire que si, finalement, il y a une prise en charge de la préparation du film de manière un peu systématique, parce que c'est une fausse flexibilité qu'on a sur le tournage, dans la mesure où intégrer des images pour en faire une image globale sur le plateau suppose quand même des contraintes techniques qui impliquent également, du coup, une préparation des axes de tournage très très précise qui doit se faire en phase de pré-production. Voilà un petit peu pour les grands axes que je voulais donner. Donc voilà pour les conclusions et questions ouvertes. On est en présence finalement de l'organisation d'une chaîne de fabrication d'images revisitée où le tournage apparaît être encore un espace-temps assez structurant, important, peut-être encore sacré, mais qui déborde, et où les choses peut-être les plus stratégiques se décident ou sont en train de se décider en pré-production, ce qui conduit aussi à changer les pratiques professionnelles, puisque on sait que dans le cinéma français, les réalisateurs, souvent, ne préparent pas leur découpage, aiment bien improviser sur plateau, donc ça voudra dire, de leur part, une sorte de discipline de travail, et peut-être aussi une révision dans la façon d'écrire des scénarios, par exemple. Donc là, j'envoie la balle à Maxime sur la question de où va se faire la créativité, à quel moment cela va se décider. Et j'arrête.